cette partie de la médecine, cet aspect de la médecine qui est la médecine personnelle, personnalisée ou privée. C'est le rapport entre un médecin et un malade. Maintenant, il y a une autre partie de la médecine qui voit une communauté comme un malade. Donc à ce moment-là, on parle de santé publique. Et cette communauté peut être un village, un territoire ou un pays. C'est ça, la santé publique. C'est cette partie de la médecine qui donne la priorité à la promotion de la santé communautaire plutôt que de la santé individuelle. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, et la santé publique et la santé individuelle, il y a des zones de superposition. C'est une question simplement de priorité. Ouais. Qu'est-ce qu'on définit comme son malade? Un médecin vous dit, mon malade s'appelle Eugénie. Et l'autre médecin va vous dire, mon malade, surtout, c'est défini comme la République populaire du Congo, il y a le Niger. Le Niger, c'est mon malade. Tandis qu'un autre médecin va dire, moi, mon malade a un nom, un individu ou bien des individus.
D'accord. Alors, suivant les actions que vous menez sur le terrain, quels sont les principaux problèmes de santé publique auxquels les populations sont souvent confrontées?
Bon, ça dépend des pays. Si on divise le monde en pays développés et en pays sous-développés, les maladies les plus importantes diffèrent. Dans nos pays qu'on appelle pays en voie de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses, des maladies qui sont dues à des microbes, en fait, des maladies de la pauvreté. Les gens n'ont pas un bon environnement. L'environnement est malsain, donc c'est les gens dans ces pays-là qui tombent souvent malades à cause des microbes, de la malnutrition. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, donc dans ces pays-là, vous allez avoir surtout des maladies dues aux mains sales, bien dues à l'eau malpropre, des diarrhées. Alors que dans les pays développés, comme l'environnement a été assaini, les maladies des microbes ont reculé. Il y a très peu de maladies infectieuses dans les pays développés. Dans les pays développés, comme les gens sont dans un environnement sain, ils vivent plus longtemps. Donc dans ces pays là-bas, on voit plutôt les maladies de l'âge avancé, comme le diabète, les maladies cardiaques. C'est parce que les gens vivent plus longtemps, ils attrapent des maladies de la dégénérescence, la maladie de la vieillesse. Il y a une autre chose qui me paraît très intéressante. Dans les pays du Nord, où le sens de la famille a disparu plus ou moins, de sorte qu'on y trouve beaucoup plus les maladies de la solitude, de la dépression, des maladies du stress. Donc voilà, si on peut contraster le monde développé et le monde en voie de développement.
Là, c'est de façon générale, mais si on veut rester plus précis en ce qui concerne l'Afrique en général et la RDC en particulier, quelles sont les maladies les plus courantes qu'on y trouve?
Voilà. Il suffit seulement de regarder les statistiques. Quelles sont les maladies qui tuent les Africains? Premier, le paludisme, la malaria. Deuxième, les infections respiratoires aiguës. Troisième, les diarrhées, les maladies diarrhéiques. Et puis alors, il y a la tuberculose, il y a le VIH, mais vraiment, la COVID, mais ces maladies viennent vraiment en quatrième, cinquième position par rapport aux maladies que j'ai citées. Le paludisme, c'est le grand tueur. Les diarrhées, c'est le grand tueur des enfants. Et les infections respiratoires, c'est un autre grand tueur des enfants. Si je peux mettre les maladies sur un podium, je ferai ça.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et qu'en est-il des femmes enceintes? Quelle est la situation des femmes enceintes?
Pour l'Afrique en général, je dirais que la femme enceinte est encore sous ce qu'on nous a présenté comme étant la malédiction de Ève. La maternité fait beaucoup de ravages en Afrique. Nos mamans aiment accoucher. Malheureusement, l'accouchement, la grossesse, l'accouchement ne se fait pas dans des conditions correctes. De sorte que sur 100 000 naissances, on a 100 000 naissances vivantes, on a souvent en Afrique 500 femmes qui meurent. Je peux dire que chaque jour, parce que ce que j'ai dit au Congo, chaque jour qui passe au Congo, il y a au moins 6 femmes qui meurent de complications de la grossesse au moment de l'accouchement. Parce que les conditions d'accouchement ne sont pas bonnes. C'est 100 fois plus que dans les pays développés. Beaucoup de femmes meurent au moment où elles veulent donner la vie. Donc la maman, la femme perd la vie, hélas.
Quelles sont donc les meilleures stratégies de santé publique pour venir à bout de tous ces problèmes?
Bien, nous n'allons pas inventer la roue. Regardons simplement ce que les autres ont fait. La priorité pour l'Afrique, au lieu de former des médecins, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, ouvrir beaucoup d'hôpitaux, la priorité devrait être donnée à l'assainissement du milieu physique et psychique. Physique. Vous voyez, la malaria, j'ai dit que malaria est le plus grand tueur. Mais malaria, ce n'est pas un nom africain. Paludisme, ce n'est pas africain. Ça sont des noms latins, italiens. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à la fin du 19e siècle, la malaria tuait beaucoup d'Italiens. Et qu'est-ce que l'Italie a fait? L'Italie a simplement assaini l'environnement et la malaria a disparu en Italie. Les maladies diarrhéiques, au 19e siècle, le choléra sévissait à Londres. À Londres. Et pourquoi est-ce que le choléra n'est plus un problème à Londres? C'est pas parce qu'ils ont formé beaucoup de médecins, parce qu'ils ont assaini, ils ont augmenté l'accessibilité de la population à l'eau potable. Et ils ont créé, ils ont donné des facilités pour que les gens aient des toilettes convenables. C'est ça que nous devions faire. Donc la priorité pour la santé publique, ce n'est pas dans la médecine, mais c'est dans le génie civil. Assainissement du milieu physique. Augmenter l'accessibilité de la population à l'eau. Bien gérer les déchets humains, les urines et les matières fécales. On a amélioré l'habitat de la population. Si on fait ça, beaucoup de ces maladies vont disparaître comme elles ont disparu en Europe. Maintenant, j'ai parlé aussi de l'environnement psychique. L'ignorance est à la base de beaucoup de nos problèmes en Afrique. Les gens n'ont pas d'informations sur la santé. Donc si on peut aussi augmenter les connaissances, les bonnes connaissances de la population en matière de santé, le meilleur médecin de quelqu'un, c'est lui-même. Donc quand l'individu a une bonne information sur sa santé, il devient son meilleur médecin. C'est les malades qui prennent la décision de venir à l'hôpital. Et souvent quand ils viennent à l'hôpital, c'est trop tard, parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ont essayé beaucoup de choses qui ne marchent pas et ils viennent à l'hôpital seulement pour mourir. Voilà l'importance de l'éducation pour le changement des comportements. Assainir l'environnement physique, psychologique de l'Afrique. Donc, si nous faisons l'hygiène publique et nous faisons la bonne éducation, il y aura moins de problèmes auxquels nous sommes confrontés pour le moment.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Et qu'en est-il de l'accessibilité aux structures sanitaires?
Il y a deux sortes de problèmes à ce moment-là. Il y a d'abord l'accessibilité physique. aller au village, je suis dans les zones rurales. Moi, j'y vais de temps en temps. Et parfois, en route, je rencontre des malades qui ont finalement décidé, après avoir été malades pendant longtemps, qui ont finalement décidé d'aller à l'hôpital. Mais à quelle distance se trouve le premier centre de soins? 10 km? 15 km? Là, vous avez encore de la chance. Mais souvent, c'est au-delà de 20 km. Bien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de moyen, de bon moyen de transport. Oh là là, j'ai rencontré beaucoup de malades qui étaient transportés à l'hôpital sur des civières. Et par des gens qui marchent, parfois sur 50 km pour aller à l'hôpital. Ça, c'est d'abord la distance géographique. Nous luttons contre ça en essayant de décentraliser les soins. Ça veut dire en faisant en sorte que certaines maladies soient soignées au niveau du village par des non-médecins et des non-médicaux. Voilà une stratégie. L'autre obstacle, c'est financier. Quand finalement vous arrivez avec le malade à l'hôpital, il faut encore que le malade paye. Hélas, dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas de bon système d'assurance. Et le malade doit payer de sa poche au moment des soins. Et il y a des femmes, moi j'ai vu, qui sont mortes parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se faire opérer pour la césarienne. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent, soit pour se faire consulter ou même quand ils ont été consultés, pour avoir l'argent pour payer les médicaments. Donc, c'est un obstacle financier. Troisième obstacle psychologique. Les gens ne croient pas à la médecine qu'ils appellent la médecine des blancs. Alors que la médecine est quelque chose d'universel. Il n'y a pas de médecine des blancs, médecine des Chinois ou médecine des Noirs. La médecine est une à cause de certains pesanteurs sociologiques. Les gens préfèrent ne pas aller à l'hôpital qu'ils appellent l'hôpital des blancs, même s'il y a des noirs qui travaillent là-bas, mais c'est l'hôpital des blancs. Alors ils essayent la médecine empirique qui n'a pas toujours l'efficacité qu'on lui donne, et alors les gens meurent. Donc il y a obstacle psychologique. Donc ces trois obstacles suffisent pour compliquer les programmes de lutte contre les maladies.
C'était notre entretien avec le docteur Malunga Nyatuzila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG dont la santé publique est l'un des domaines d'intervention. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur la fistule obstétricale, une blessure à l'accouchement dévastatrice qui conduit souvent à l'isolement. Le professeur Serigne Magaïgay de l'université Cheikh Anta Diop partage quelques solutions pour mettre fin à la fistule obstétricale sur le continent. Et l'Afrique du Sud à la recherche de solutions face à une épidémie mortelle de choléra. De plus, les organisations humanitaires tire la sonnette d'alarme sur les conditions de vie précaires des déplacés en RDC. Enfin, un photographe ghanéen nous compte la fistule obstétricale à travers sa caméra. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. C'est l'une des blessures les plus tragiques de l'accouchement. La fistule obstétricale est une perforation entre l'appareil génital de la femme et la vessie ou le rectum. Elle provoque une perte incontrôlée d'urine et souvent d'excréments. Les fistules obstétricales sont souvent dues à un travail d'accouchement prolongé sans accès à un traitement médical rapide et de bonne qualité. Chaque année, entre 50 000 et 100 000 femmes dans le monde sont touchées par la fistule obstétricale, selon l'Organisation mondiale de la santé. De nombreuses femmes dans certaines régions d'Afrique en souffrent en silence. Notre correspondant, Id Ouessou, nous en dit plus depuis Dar es Salaam, en Tanzanie, dans ce reportage raconté par Blanche Sanou.
Christina James, une résidente de Kahama dans la région de Chianga au nord-ouest de la Tanzanie, a parcouru plus de 900 km jusqu'à l'hôpital CCBRT de Dar es Salaam à la recherche d'un traitement de la fistule. La fistule obstétricale, causée par un accouchement prolongé et obstrué, a un impact dévastateur sur les femmes. La blessure, qui fait qu'une personne perd le contrôle des mouvements de la vessie et des intestins, peut entraîner d'autres complications si elle n'est pas traitée. Christina James dit qu'elle a lutté contre la fistule pendant plus de 2 ans avant de recevoir un traitement chirurgical.
J'ai accouché naturellement et j'étais censée avoir des points de suture à l'hôpital. Mais après avoir reçu les points, ceux-ci ont été arrachés. J'ai été envoyée à l'hôpital, mais j'avais déjà une infection fongique.
Bien qu'elle ait cherché de l'aide, Christina James dit que ses problèmes médicaux n'ont pris fin que cette année lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital CCBRT.
Je demande à toute personne qui a un enfant de le surveiller attentivement et de l'envoyer à l'hôpital quand il ressent de la douleur. Il ne faut pas les laisser aux gens qu'il ne connaît pas. Cela cause beaucoup de problèmes.
Les souvenirs de son parcours de guérison sont douloureux. Elle était socialement isolée et ridiculisée et s'est retrouvée incapable de travailler à cause de la honte associée à sa blessure. Elle veut changer cette situation pour les autres. Les médecins du pays veulent également encourager les femmes à comprendre la maladie et à demander de l'aide. Daniel Michael, chirurgien dans un hôpital où Christina James reçoit un traitement, affirme que la communauté doit également soutenir les femmes.
Nous demandons une prise en charge rapide de ces femmes en temps opportun, car le plus gros problème de la fistule survient pendant la douleur du travail. Ces patientes sont ignorées. Nous demandons donc au niveau de l'hôpital que les patientes ne soient pas gardées dans une période prolongée de travail. Et si l'hôpital ne peut pas les aider à temps, ils doivent les référer le plus rapidement possible.
Chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, entre 50 et 100 000 femmes sont touchées par une fistule obstétricale qui peut être traitée généralement par chirurgie.
Le docteur Serigne Magaigay est professeur d'urologie à l'université Cheikhanta Diop et andrologue. Il nous en dit plus sur la fistule obstétricale.
C'est une complication de l'accouchement qui est le corollaire d'une mauvaise surveillance de la grossesse qui aurait permis d'identifier les femmes qui auront des complications parce que le fœtus soit trop gros ou bien parce que les parties génitales ne sont pas suffisamment développées pour permettre au fœtus de progresser ou bien que le bébé est mal positionné dans l'utérus, dans le ventre de la mère. Et toutes choses qu'on peut voir pendant les consultations prénatales qui ont manqué dans le cas pareil. Absolument. Je pense que prévenir la fistule obstétricale, ça commencera d'abord par une bonne information, une bonne communication envers les populations pour qu'elles sachent que la grossesse, même si elle est un phénomène physiologique, pas du tout anormal, ce phénomène va être surveillé. Il va être surveillé par des personnes qualifiées. Et que lorsque l'accouchement se passe, il doit se passer dans un milieu médicalisé, surveillé par des personnes aussi qualifiées, bien formées, ça peut être des sages-femmes, ça peut être des médecins, et que l'on doit arrêter d'accoucher dans la case, parce que traditionnellement, les mamans et les grands-mamans ont accouché sous la case. Il faudrait aussi faire tout pour éliminer les 3 retards. Le premier retard, c'est le retard qui consiste à décider d'amener la femme au centre de santé. Le deuxième retard, c'est le retard qui consiste à avoir des difficultés pour accéder au centre de santé. Et enfin, le troisième retard, c'est le retard à l'intervention dans le centre de santé même. Que lorsqu'une femme arrive dans un centre de santé à la maternité, qu'on puisse rapidement identifier celle qui pourra accoucher normalement et celle qui ne pourra pas accoucher normalement. Et celle qui ne pourra pas accoucher normalement doit immédiatement bénéficier d'une césarienne. Et lorsque la femme développe déjà la fistule, ça veut dire lorsque la fistule est déjà constituée, nous n'avons pas beaucoup d'options que la chirurgie. Cette chirurgie est une chirurgie qui peut être très excitante, comme on dit, mais qui a beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Ce qui demande une formation particulière pour commencer à s'occuper de la chirurgie des femmes porteuses de fistules. Elles peuvent être très simples. Les cas de fistules peuvent être très simples, ce qu'on appelle des fistules simples. N'importe quel praticien de chirurgie, de gynécologie, d'urologie, même certains médecins qui ont des compétences chirurgicales de base, peuvent être formés à réparer ces cas. Les cas peuvent être un peu moins simples, pour ne pas dire un peu plus complexes, voire compliqués, et ça demande une formation particulière. Mais comme on dit, reconnaître ses limites est un début de compétence, et chaque praticien doit savoir ce qu'il peut prendre en compte et ce qu'il ne peut pas prendre en charge, et en ce moment, les choses se passeront très bien.
Certains organismes humanitaires affirment que le montant de l'aide destinée à des pays comme la République démocratique du Congo a été affecté par l'aide à l'Ukraine. Paul Ndiho de la VOA a visité le camp de Sake dans la province orientale du Nord Kivu et raconte les défis vécus par les déplacés. Récit Jininiwa.
Gâteau Francine, mère de 6 enfants, vit depuis 10 mois dans le camp de Sake pour personnes déplacées en RDC. Elle a fui sa ville natale de Kalenga à cause des attaques du groupe rebelle M23 qui terrorise la région. Elle dit que la vie est dure dans le camp et qu'elle doit parfois mendier de la nourriture.
J'ai fui mon village à cause de la guerre menée par le M23. Quand ils sont arrivés chez nous à Kalenga, ils ont lancé une bombe sur ma maison. Alors nous nous sommes enfuis. Je n'ai rien emporté avec moi.
Comme Francine, ce garçon de 15 ans qui n'a donné que son prénom, Sam, a été placé par le conflit dans la région. Il a été touché par une balle perdue et se rétablit actuellement après avoir subi une intervention chirurgicale dans le camp de Sake. Selon le HCR, plus de 880 000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer dans l'est de la RDC depuis mars 2022, date de la flambée de violence.
Nous travaillons également dans le domaine de la santé, en particulier de la santé mentale, car les populations ont été affectées par les déplacements et les combats ont parfois été très durs et ont fait de nombreuses victimes.
Le CICR fournit une aide humanitaire indispensable aux habitants du camp. Anne-Sylvie Linder explique que le travail de son organisation en RDC est difficile en raison d'un manque de financement.
Toutes ces crises ont été comme un défi. Je parle du nombre de personnes déplacées et cela dépasse toutes les capacités de n'importe quelle organisation internationale. Nous devons donc beaucoup travailler ensemble.
Selon Madame Linder, l'argent qui aurait pu leur être versé va maintenant à l'Ukraine et les habitants de la RDC doivent se débrouiller seuls. Malgré les difficultés financières, le CICR apporte son soutien à plusieurs hôpitaux, dont Bethesda Ndosho à Goma, l'hôpital général de Beni, l'hôpital provincial de Bukavu et un programme de chirurgie à Bukavu.
Plus de 2 dizaines de personnes sont mortes du choléra juste à l'extérieur de la capitale sud-africaine Pretoria au cours des 2 dernières semaines et des centaines ont été hospitalisées. La VOA a parlé aux résidents touchés et aux autorités qui recherchent toujours la source. Reportage de Kate Bartlett depuis Hammanskraal, Afrique du Sud. Le récit est de Gabi Dorsil.
Alors que le choléra, une maladie d'origine hydrique, peut être courant dans d'autres parties de l'Afrique, il est inhabituel en Afrique du Sud, le pays le plus industrialisé du continent. Mais près de 2 dizaines de personnes sont mortes ces derniers jours et dans cette zone pauvre, juste à l'extérieur de la capitale, Pretoria, des habitants comme Lerato Marota blâment carrément le gouvernement.
Les gens meurent du choléra, alors nous avons peur maintenant parce que notre eau est très sale.
Elle dit que son mari est tombé malade à cause de l'eau, mais qu'il s'est heureusement rétabli après être allé à l'hôpital. Cependant, dit-elle, bien que cette épidémie soit nouvelle, l'eau est sale depuis des années.
Nous blâmons le gouvernement parce que le gouvernement, je veux dire, cela fait longtemps que nous nous battons pour obtenir de l'eau potable. Mais ils n'ont rien dit à ce sujet. Je pense que c'est de la corruption parce qu'ils ne nettoient pas l'eau.
L'ONG sud-africaine Gift of the Givers tente d'arrêter la propagation de la maladie en distribuant des milliers de bouteilles d'eau potable et d'autres aides à la communauté.
C'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir, dont l'invité était le docteur Malunga Nyatubila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, nous vous avions proposé Carnet de Santé. Ce magazine Santé a été présenté par Nani Salani grâce à la réalisation de Michel Joseph. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.